Dernière journée de top 12 pour l'année 2022, la quatrième, on finit avec la poule 1 puisque la 2 est déjà faite, c'est tout de suite dans ce nouvel épisode de... 21 Shuttle Badminton at its very, very best. My goodness me. What a rally.
Oh, sensational. I'm the bad guy. Take that.
Salut Benoît, comment vas-tu ?
Salut Ewan, bonjour à tous. Eh bien écoute, plutôt pas mal et toi ?
Ça va bien, on commence à voir la fin de l'année qui arrive. Avant-dernier épisode de l'année pour nous, on en reparlera la prochaine fois, enfin à la fin de cet épisode. Benoît, pour la top 12, donc pas mal de surprises dans cette poule 1. Mais surtout, une poule 1 à l'image de la poule 2, marquée par les absences. Est-ce que tu peux nous faire une petite liste des tournois qu'il y avait en même temps ? Il y en avait pas mal.
Eh ben, il y avait un tournoi au Canada déjà, comme je l'ai dit dans le résumé de la poule 2 qu'on avait anticipé, mais on ne pensait pas qu'il y aurait autant de joueurs de top 12, notamment les Français ou les Européens. On se doutait pour les Nord-Américains, mais pas pour les autres. Et du coup, ça a quand même pas mal changé les équipes. Il y avait aussi Tom Jiquel et Delphine Delrue au World Tour Finals. Et il y avait aussi, pour certains, les championnats d'Angleterre. Donc, contrairement à ce qu'on avait annoncé, finalement, pas mal d'absents sur cette journée de top 12.
Voilà. Et du coup, de l'impact sur les pronostics, certains s'en sont quand même très bien tirés. On verra ça. On vous donne rendez-vous en fin d'épisode pour débriefer les pronos. On va commencer par le débrief des rencontres et par Chambly, qui allait s'incliner. On commence par Chambly parce que c'est très rare qu'ils perdent, mais quand ils le font, du coup, on en parle en premier. AR sur la liste qui l'emporte 6-2. Benoît. Les absences, je vais faire un petit tour, tu me diras si j'oublie des choses. Du côté d'Air sur la liste, il manquait donc Ben Lane et Sean Vendy, champion d'Angleterre. Cheam Junwei, pardon, le Malaisien était là pour la première fois. Sonia Chia, la Malaisienne, n'était pas là. Yael Oyo était présente. Vivienne Sandorasi n'était pas là. Donc, trois absents. Et par contre, du côté Chambly, il y en a un peu plus. Marcus Ellis, Lauren Smith, Delphine Delrue, Béatrice Corrales, Michelle Lee et Léonie Sué manquaient tous à l'appel. Et ça s'est vu pour Chambly, Benoît.
Oh que oui, ça s'est vu et c'est très compliqué. Enfin, ça a été très compliqué pour Chambly. Il y a eu quelques matchs serrés, on va revenir sur tout ça en détail, mais ouais, effectivement, quand tu vois l'équipe alignée par Chambly sur cette journée, on se doutait que ça allait être très très compliqué d'aller chercher même un bonus défensif peut-être.
Clairement, alors on va commencer par les deux matchs remportés par le champion en titre. Thomas Rouxel qui bat Brice Leverdez en simple homme 1, un match qui sent bon le simple homme français des années 2010. De la décennie, on peut le dire. 21-11, 21-19 pour Thomas Rouxel. Et le double homme, Brice Leverdez, qui a à nouveau perdu, il était associé à Louis Ducrot. Ils ont perdu contre Éloi Adam et Fabien Delerue, 21-9, 21-19. Sinon, dans les matchs serrés, on a notamment eu ce mixte 1 où Flavie Vallée et Junwei Cheam ont battu Fabien Delerue et Imke van der Aar, la joueuse néerlandaise, 20-22, 21-19, 21-17. L'autre mixte a été assez serré aussi, et c'est encore R sur la liste qui est sorti vainqueur. Louis Ducrot et Yael Oyo ont battu Éloi Adam et Lorraine Baumann, 26-24, 18-21, 21-13. Est-ce que tu veux dire un mot sur ces 4 matchs déjà, Benoît ?
Alors, sur les deux matchs que Chambly remporte, il n'y a pas vraiment de discussion, je trouve. Par contre, ces deux mixtes, clairement, c'était les deux premiers matchs, en fait, pour resituer. Et c'est probablement les deux matchs qui ont fait basculer, parce que on va voir après qu'il y a eu un autre match en 3-7, mais c'était vraiment les deux seuls matchs serrés, très serrés, où ça aurait pu tourner dans l'autre sens. Et je trouve quand même que la perte d'Elru van der Aar doit faire beaucoup mieux, même si on ne remet pas en cause, tu vas nous dire ce que tu en penses, mais Cheam, ça reste un très très bon joueur de simple, mais en double, je reste convaincu qu'une perte d'Elru van der Aar doit faire beaucoup mieux.
Bah c'est vrai, mais en vitesse, il a mangé Fabien Delrue. J'ai pas grand chose d'autre à rajouter. C'est vrai que c'est allé un peu trop vite. Il est très rapide. Donc sur un mixte, c'est peut-être un peu plus avantageux qu'en double homme encore. Mais ouais, je suis d'accord avec toi que je pensais plutôt à une victoire de la paire de Chambly, mais bon. Et dans l'autre, ça s'est pas joué à grand chose au début, mais la paire d'Air Surlis a bien fait la diff, alors que bon, Yael Oyo est pas vraiment une joueuse de double, mais voilà, Lauren Baumann côté Chambly, je pense qu'elle joue quand il y a vraiment pas mal d'absents chez les filles, ce qui était le cas ce jour-là. Pour les quatre autres matchs, j'ai pas cité le dernier double, c'est le double dame qui a été remporté par Flavie Vallée et Roman Klotofoucault pour Air Surlis face à Lauren Baumann et Imke van der Aar. Et les trois autres simples ont été remportés par Air Surlis. Jun Wei-Cheam, donc le Malaisien dont on parlait tout à l'heure, a mis une correction à Etu Aino, le Finlandais, 21-8, 21-4. Ça a été un peu plus serré en simple dame. Yael Oyo a battu la jeune joueuse Léa Nyquist 21-16, 21-18. Et Roman Klotofoucault a lâché le premier set face à Elsa Dankers 29-27. Mais a ensuite plutôt contrôlé la rencontre 21-16, 21-7. Benoît, ton avis? Pas mal de scores assez logiques finalement. Parce que même Roman Klotofoucault, ok, elle perd un set. Mais on s'attendait à ce qu'elle batte Elsa Dankers. Pour les deux autres simples, Yael Oyo, c'est normal qu'elle batte Léa Nyquist. Pareil pour Jun Wei-Cheam. Le double dame, à la rigueur, j'aurais peut-être un petit doute, mais Air Surlis a été très très clutch sur les doubles les plus indécis.
Ouais, t'as tout dit. J'attendais quand même le duel entre Néla Nyquist et Yael Oyo, mais Néla Nyquist, elle a vécu une saison compliquée, elle manque de rythme. C'est bien pour la confiance de Yael Oyo parce que bon, les matchs gagnés ces derniers temps, il n'y en a pas eu beaucoup. Maintenant, avec un peu plus de temps de jeu dans les jambes, je ne suis pas convaincu que ça se serait passé de la même façon. Après voilà, sur les joueurs que tu as cités, j'aimerais avoir ton avis là-dessus, mais Elsa Dankers, Lauren Baumann et Etu Aino. Alors Néla Nyquist, c'est encore un cas particulier parce qu'elle est en développement, mais les trois que je viens de citer, aujourd'hui, c'est... Alors, je sais pas s'ils ont pas leur place dans une équipe de top 12, mais en tout cas pas dans une équipe multiple championne de France en titre comme Chambly.
Non, c'est clair. C'est clair qu'on vantait souvent la qualité du banc de Chambly, mais là, ça n'a carrément pas fait le poids. Alors là, c'était... Ouais, là, ils sont allés chercher loin parce qu'ils avaient vraiment beaucoup d'absents. En fait, tu vois, Benoît, ce serait passé s'ils avaient joué contre une équipe inférieure. Mais là, contre une bonne équipe de Air Surlis qui avait des absents, mais qui avait quand même une équipe bien solide, il n'y avait clairement pas la place pour Chambly, quoi.
Non, c'est ça. Et puis, il y avait encore des absents. Tu les as donnés, hein. Lane Vendy, je ne sais pas si on l'a cité, mais Sonia Chea qui n'était pas là non plus... mais tu sors Cheam de ta poche au bon moment. On avait reproché à Chambly en fin de saison dernière, de pas avoir tenté le coup avec ce qui s'était passé avec Foss. Et il y a eu une journée où R aurait pu se relancer et a fait le pari de finalement envoyer une équipe B alors que ça aurait pu tout changer. Et là, je trouve que c'est un des meilleurs coups de cette saison d'avoir sorti Cheam à ce moment-là.
Bah ouais. De ouf, parce qu'il a été décisif et je pense qu'ils ont bien visé certaines rencontres dont la réception de Chambly pour le faire jouer. Donc victoire 6-2 d'Air Surlis. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter à ça?
Non, je pense qu'on en a quand même très bien parlé.
On parlait de la forme de Yael Oyo, juste pour finir, celle de Brice Leverdez en ce moment, c'est pas glorieux, hein. Franchement.
C'est pas la même situation pour les deux quand même, mais oui, je suis d'accord.
Non, mais il y a quelques mois, Brice Leverdez, il jouait quand même bien mieux. Tu te souviens ce qu'on disait, il avait battu Kidambi il y a quelques mois et tout. Je sais qu'il est en fin de carrière, mais il était quand même largement meilleur il y a encore pas si longtemps. Même à la tournée, en Purple League, il était pas si mauvais.
Oui. Ouais, son niveau, ouais, c'est ça. On voyait bien qu'il était vieillissant, mais il avait un niveau moyen très très bon, même quand il perdait.
Voilà, exactement.
Là, ça fait quand même quelques semaines, c'est beaucoup plus compliqué, même en top 12.
Ouais. Et comme on le disait, Etu Aino, ça fait plus trop l'affaire non plus pour Chambly.
Ouais.
Allez, on passe à la deuxième rencontre. Aix-en-Provence, Foss-sur-Mer.
I'm the bad guy.
Take that. Alors, on a eu un derby de l'Est dans la poule de Benoît. Là, cette fois, on a un derby du Sud entre Aix et Fos-sur-Mer. On va faire les rencontres dans l'ordre. On a commencé avec les deux mixtes. Mixte 2, facilement remporté par Ronan Labarre et Olga Morozova contre Erwin Kellhoffner et Zera Erdem, la joueuse turque. 21-8, 21-9. De l'autre côté, il était un peu plus indécis, je pense, le 1, et c'est Thomas Junior Popov et Mai Shiro, la danoise, qui ont battu Ivan Sozonov et Maria Mitsova. 21-13, 21-17. Benoît, un mot là-dessus. J'aimerais bien savoir les stats, mais Thomas Junior Popov et Mai Shiro, quand ils jouent à deux en mix, j'ai pas souvenir qu'ils aient perdu un match. Là, ils gagnent encore relativement facilement, alors qu'il y a quand même des bons joueurs en face, quoi.
Ouais, et puis ils ont battu des paires encore plus solides que celle-là. Je sais pas, je vais peut-être dire une bêtise, mais est-ce qu'ils ont pas battu la fratrie Del Rue ?
Ouais, exactement, c'est ce que j'allais dire, ouais.
Ok, voilà, donc ils ont des vrais stats en double mixte, et je trouve Thomas Junior Popov très intéressant sur... Peut-être qu'il fit très bien avec Mai Shiro, mais je le trouve très intéressant.
Bah, juste avant que t'enchaînes, on parle souvent de lui quand il joue avec son frère en double homme, mais je trouve ça assez logique, il a largement plus le profil pour jouer en mixte qu'en double homme, Thomas Junior Popov, s'il devait choisir entre un des deux tableaux de double.
Oui, je le pense aussi, mais je pense que les circonstances font qu'il joue en double homme, mais oui, je suis d'accord avec toi. Et sinon, globalement, les deux résultats me semblent assez cohérents avec ce qu'on voit depuis le début de la saison. Enfin, je veux dire, sur le mixte 2... Il n'y avait pas Kellhoffner Erdem, évidemment, qui ne pouvait pas rivaliser, je pense.
Résultat qui n'est pas forcément cohérent avec ce qui se passe depuis le début de la saison, c'est Lian Tan qui bat Neslihan Higit, 21-19, 21-14. Alors Benoît, je m'arrête dessus. C'est vrai qu'Higit, on la voit quasiment jamais jouer. Je ne sais pas si elle a du rythme dans les jambes ou quoi, mais Lian Tan qui ne vit pas la saison de sa vie, on en parlait encore la semaine dernière. Bon résultat quand même contre Higit, même si, encore une fois, j'aimerais bien savoir... comment s'entraîne et comment joue la joueuse turque, parce qu'on la voit jamais en fait.
Il y a plusieurs trucs. Lian Tan, quand même, est-ce que c'est la Lian Tan qui fait finale la semaine dernière ou il y a 15 jours j'ai un trou de mémoire. Au Welsh,
ouais.
C'est au Welsh.
Ou
est-ce que c'est la Lian Tan qu'on voit depuis plusieurs mois à la traîne là, c'était plutôt la Lian Tan qui fait finale au Welsh. Et. T'as raison de souligner pour Higit, et c'est quelque chose qu'on pourrait souligner pour l'entièreté de l'équipe turque en fait. Parce que ça fait des mois qu'on voit plus les Turcs sur les tournois internationaux. Alors j'avoue que là j'ai pas d'explication, donc je vais pas en balancer comme ça pour dire n'importe quoi, et je chercherai pour ressortir ça dans un prochain épisode. Mais on avait Erset İnci qu'on a seulement vu aux Jeux méditerranéens parce que c'était en Turquie de mémoire. Zera Erdem, on la voit pas non plus. Ils avaient quand même des joueurs de simple homme pas dégueu, et on voit plus les Turcs sur le circuit, donc forcément que ça coûte. Et Higit, oui, elle vient à Fos, mais là tu vois, on va en parler après, mais elle rapporte aucun point, alors qu'à mon avis elle a le niveau pour en rapporter au minimum un voire deux,
clairement. Ouais. Zera Erdem, sa compatriote, a gagné dans le simple dame 2 contre Anastasia Akshorina, la joueuse russe, 17-21, 21-19, 21-12. Dans les deux autres simples, oui, j'ai pas parlé des absents, mais Christo Popov n'était pas là côté Fos-sur-Mer, tout comme Steven Stallwood et Ophélia Casier. Alors que côté Aix-en-Provence, il manquait Jesper Toft qui n'était pas là. Et chez les filles, Gronia Sommerville, n'était pas là. Chloé Magui, pas là non plus. Donc, oui, Thomas Junior Popov a battu Indra Bagus Adeshandra 21-9, 21-13, victoire annoncée et facile. Et donc, oui, le simple homme 2 de Fos, qui est d'habitude Christo Popov, là c'était Anthony Nelson, le joueur vétéran, qui a perdu contre Alexandre Françoise 21-12, 14-21, 21-16. Benoît, sur les simples, sur les autres simples, t'as des résultats somme toute logique.
Ouais, somme toute logique. Ouais, bon, Zera Erdem, on continue d'être surpris. Je pense qu'il faut pas s'habituer non plus. C'est une méga bonne pioche de Fos, mais oui, globalement.
Oui, après, Akshorina est plus une joueuse de double, mais voilà. globalement, Zera Erdem gagne ses matchs. Le match
non,
entre. C'est marrant parce que le format avec le top 12, c'est que le simple homme 2 entre des joueurs les moins forts. c'est celui-là qui aurait pu faire aller la rencontre dans un sens ou dans l'autre. Moi, je le trouvais assez indécis, ce match entre Anthony Nelson et Alexandre Françoise. Finalement, c'est Aix-en-Provence qui le gagne et il a eu son importance, comme on va le voir.
Alexandre Françoise déçoit rarement quand même.
C'est vrai,
oui,
c'est vrai.
Je suis d'accord avec toi.
Double homme et double dame ont été remportés par Aix-en-Provence. Ronan Labarre et Ivan Sozonov battent Erwin Kellhoffner et Anthony Nelson, 21-13, 21-18. Tu me diras heureusement, parce que s'ils le perdaient,
bah
ceux-là,
oui.
celui-là, c'était la honte. Et en double dame, la paire russe Akshurina Morozova a battu Neslihan Higit et Mai Shuro, 20-22, 21-12, 21-16, ce qui nous fait, Benoît, une victoire 5-3 d'Aix-en-Provence, première défaite de Foss cette saison après un début de saison parfait, tout simplement. Ils avaient 3 victoires en 3 matchs. Qu'est-ce que tu penses de cette rencontre globalement et des matchs dont on n'a pas encore parlé?
C'est une très bonne question. On va pas se mentir. Je crois que personne n'avait pronostiqué ça, ou une seule personne. C'était difficile de l'anticiper. Il y a quand même l'absence de Christo qui coûte très cher. Mais en même temps, je m'attendais à Foss qui vit à Foss, pas du tout. Je m'attendais à Aix avec une équipe beaucoup plus complète. Il y a au moins Jesper Toft qui est dans la forme de sa vie, même s'il est très jeune en ce moment. Chloé Magui qui sont pas là. En vrai, Aix a un peu joué avec le feu, finalement, malgré les absences côté Foss. Tu te dis, ils ont pas amené tout le monde. Ok, ils s'en sortent quand même. Tant mieux pour eux. Mais je pense quand même qu'ils se sont un peu fait peur, alors qu'ils auraient pu s'éviter ça, sachant que Foss venait avec une équipe largement remaniée avec l'absence de Christo.
Ouais, c'est clair. Finalement, cette défaite, elle est pas illogique. De Foss-sur-Mer, c'est vrai que ça leur a coûté cher. Je pensais pas que l'absence seule de Christo pourrait avoir un impact
Stalwood
sur Foss-sur-Mer. Ouais, Stalwood évidemment dont l'absence a coûté cher en double, mais tu vois, leur équipe est encore très correcte, donc je pensais que ça pourrait le faire. Bah, effectivement, non, pas du tout. Et Aix qui fait la très bonne opération, on le reverra au classement, mais qui fait la très bonne opération de cette journée. On passe à la dernière rencontre. Talence contre Rostronin.
Look at this, look at that.
Il y a eu que des rencontres serrées. Celle-là, ça a bien commencé pour Talence, puisqu'ils ont gagné le double homme et le double dame. En double homme, Thomas Fourcade et Bastien Kersaudi ont battu Martin Boiveau et Clément Gillot. 21-8, 21-8, bon là c'était assez facile. Selena Pick et Yelizaveta Zarka, la joueuse ukrainienne, ont battu Katel Demochakin et Julia Wall-Jakobsen en double dame, 21-17, 21-10. Mais comme souvent, c'est en simple que Rostronin gagne des points. Chichoufei, toujours elle, qui a battu Yevhenia Kantemir, 21-9, 21-9. Nathan Guyen a battu Lucas Clairbout, 21-9, 16-21, 21-19. Est-ce que tu veux dire un mot sur un des 4 premiers matchs, et notamment le dernier dont j'ai parlé là,
voilà.
21-19 au 3ème quand même?
Le match de la rencontre, celui qui a fait tout basculer, dur pour Lucas Clairbout. Hein.
Oui, est-ce
parce que vraiment
Benoît,
bon niveau, hein.
Je me trompe, mais est-ce qu'il n'avait pas battu l'Irlandais en Inde, là, quand ils n'ont pas joué la finale? En demi, je crois que Clairbout bat Nathan Guyen de mémoire.
Alors, je ne vais pas dire de bêtises parce que je ne me souviens pas, mais c'est possible. Et il a vraiment encore sorti un bon match, hein, Lucas Clairbout. Donc, c'est frustrant. C'est surtout dur pour Talence de ne pas l'avoir remporté parce que... Je vais pas dire qu'il méritait, mais il a quand même montré un très bon niveau de jeu face à Nathan Guyen.
Alors, ça fait 2-2 à ce moment-là. Les deux autres simples sont partagés entre les deux équipes. Match assez serré en simple homme 2 où Thomas Fourcade de Talence bat Danilo Bosnuc de Rostronin, 23-21, 21-18. Dans le même temps, Julie Dawal-Jakobsen, la Danoise, bat beaucoup plus facilement la jeune joueuse Florian Nurit, 21-10, 21-7. Et puisque les équipes ont décidé de se partager tous les matchs, c'est exactement ce qui va se passer avec les deux mixtes. Les deux joueurs un peu stars, on va dire, de Rostronin sont alignés ensemble en mixte 2, Nathan Guyen et Chichoufei. Ils ont battu Yelizaveta Zarka et Bastien Kersaudi, 21-19, 18-21, 21-16. Ça a été plus facile pour Talence dans l'autre match, Lucas Clairbout et Selena Pick, qui ont battu Danilo Bosnuc et Katel Demochakin, 21-12, 21-13. Benoît, avant de te donner la parole, petit tour des absents. Côté Rostronin, Max Verskirchen n'était pas là, Paul Tournefier n'était pas là, notamment chez les dames, il y avait tout le monde. Et côté Talence, par contre, il manquait des joueuses. Il manquait également Lucas Renoir, mais il manquait aussi Rachel Onderich et Clara Azurmendi. Benoît, là comme ça, en voyant les scores, on peut avoir des regrets pour Talence, puisque finalement les matchs serrés, les deux matchs les plus serrés, c'est Rostrenin qui repart avec.
C'est exactement ce que j'allais te demander. C'est pour moi, est-ce qu'il n'y a pas qu'une seule équipe qui peut avoir des regrets sur cette rencontre? Enfin, je pense que le nul, quand tu vois la physionomie des rencontres, c'est pas miraculeux, mais c'est le maximum que Rostrenin pouvait espérer, en tout cas avec ses effectifs-là alignés. Alors que Talence, tu te dis, en vrai, si tu prends les deux matchs qui sont serrés, ça fait 6-2. C'est plus du tout la même affaire. Donc, clairement, tu peux nourrir des regrets côté, côté Talence.
Lucas Clerbou doit se dire qu'il est passé à côté de quelque chose avec son simple, parce que c'était la win au bout, quoi. Et potentiellement, le maintien, déjà.
C'est ça. Après, si on devait... c'est pas un concept qu'on fait, mais si on devait élire un joueur de la journée, on peut parler aussi de Thomas Fourcade, qui est pas un titulaire indiscutable, parce que Lucas Renoir, je pense, a plus sa place, en tout cas en double. Thomas Fourcade, il rapporte quand même 2 points côté.
On parlait de Raphaël Gavois à Mulhouse dans la poule 2. Là, c'est exactement la même chose. C'est un mec qui d'habitude joue moins ou pas trop et qui va chercher 2 points très précieux pour son équipe.
Ouais, puis il tape Danilo Bosnu quand même. En top 12, c'est archi solide. Hein.
Ouais, de ouf. Oui, c'est vrai. Après, évidemment, Chichoufei et Nathan Guyen font encore énormément de bien. On s'en doutait. Julie Dawala-Kobsen, hein, pareil, bon, elle gagne pas son double dame, mais franchement, ça fait. C'était une rencontre intéressante. Et Benoît, en tant que spectateur, vu qu'a priori. C'est terrible parce qu'on se dit il y a une de ces deux équipes qui va descendre en fin de saison, c'est quasiment sûr maintenant, je pense que ce sera une de ces deux là et quand tu vois cette rencontre, c'est dommage quand même.
Oui, puisque... c'est encore plus dommage quand tu vois l'autre poule.
Exactement, je suis d'accord avec toi.
Là, pour moi, cette année, je vais pas dire que t'as des années où il y a pas des équipes qui jouent le jeu, parce que c'est pas le cas cette année où l'un ils jouent avec leurs armes depuis des années, ils se maintiennent comme ça depuis des années, c'est comme ça. Mais quand tu vois que t'as eu des équipes comme l'année dernière avec Boulogne et que cette année t'as des vrais effectifs et t'as une équipe qui va descendre, c'est dur parce qu'on sait que quand tu descends en N1, ces deux équipes là, peu importe laquelle, ils pourront probablement pas garder des Nathan Guyen, des Clara Azurmendi ou ce genre de joueurs.
Ouais, je sais pas. Je me dis que tu peux, peux essayer le pari de. Ouais, je me doute, mais tu peux tenter le pari de faire l'ascenseur et d'essayer de remonter direct, tu vois. Mais c'est vrai, on verra. C'est pas fait en tout cas, mais en fait, là où je voulais en venir, c'est qu'a priori, c'est quasiment sûr que c'est une de ces deux équipes-là qui va descendre. Et ce que je voulais dire, c'est que en tant que spectateur, finalement. Un match nul, ça nous arrange entre guillemets, puisque c'est deux équipes qui joueront du coup à l'avant-dernière rencontre de la saison, et ça risque, ça risque d'être sympa, tout simplement.
Ce sera malheureusement ou heureusement, je sais pas, mais ce sera probablement le fameux match de la descente.
Ouais, malheureux vaincu effectivement dans cette rencontre. Là, je regarde un peu ce que doivent jouer les deux dernières équipes. Du coup, Rostrenin joue Aix et Talence joue Chambly. Ouais, donc de toute façon deux rencontres difficiles pour les deux. Donc, ok. Tu veux rajouter quelque chose sur cette rencontre ?
Non, je pense que parce que tu vas en parler dans le classement, donc.
Exactement, tu me connais bien. Aimez-vous le badminton ? Ah non ! Il s'agit là d'un sport qui ne déçoit personne. Le classement, donc, on a Foss 17 points, égalité avec R sur la liste 17 points. Derrière, on a juste un point derrière, Aix-en-Provence 16 points, Chambly 12, Talence 8 et Rostrenin 7 points. Benoît, qu'est-ce qui l'envoie du rêve ce classement ? Il est sympa, franchement.
Ouais, je suis pas persuadé qu'à Chambly ils aient la même analyse que toi, parce que là.
Juste, je te dis pourquoi ça envoie du rêve. Parce que on a 3 équipes en 1 point Et en quatrième, on a Chambly à 5 points du leader. Mais tu vois, si ça avait été la même chose, mais avec R sur la lice quatrième, je me dis, bon, R sur la lice, ils vont se faire décrocher et tout. Alors que Chambly, ils vont nous faire la classique Chambly, ce qu'ils ont notamment fait l'année dernière. Ça veut dire que sur la phase retour, ils auront des équipes quasi au complet à chaque fois. Et au final, ils vont prendre la plupart des points qu'il y a à prendre. C'est pour ça que j'anticipe la future remontée de Chambly et je me dis, on va avoir une saison très très cool. Si, et je leur souhaite... R sur la liste peut garder ce rythme et rester dans la course, on aura donc 4 équipes pour 2 places et ça va être passionnant.
Ah, ça c'est clair qu'en tant que spectateur, je pense que là il y a une course à 4 pour 2 places et je pense que vu les écarts qu'il y a, je me dis que je suis un peu comme toi, en mode Chambly a tellement de retard, enfin tellement, c'est pas énorme 4 points mais c'est quand même déjà
en top 12 points, c'est beaucoup, c'est... on le disait
ouais, voilà c'est ça. Donc, je me dis qu'il y aura forcément au minimum une course à 3, probablement à 4, jusqu'au bout.
Mmh. Ouais, clairement. Et ça voudra dire que chaque point défensif va compter, chaque point offensif va compter quand ça jouera des équipes plus faibles. Mais en même temps, on le disait, les équipes plus faibles, c'est Talence ou Rostrenin qui sont vraiment pas dégueux et qui ont qu'un point d'écart. Donc là, pareil, pour le maintien, ça va être incroyable. Franchement, dans cette poule, elle envoie pas mal du rêve, ouais.
Il n'y a eu qu'un seul 8-0 hein, depuis le début de la saison dans cette poule. C'était de mémoire, c'est Talence qui l'a pris, je crois.
Ouais, contraire sur la liste.
AR, ouais, voilà. Avec un effectif largement remanié et tout. Donc, je pense pas que des 8-0, il y en aura beaucoup.
Non, je pense pas non plus, clairement. Et ouais, non, cette poule, franchement, c'est très très cool et pas facile à pronostiquer comme on va le faire tout de suite. Ah, tu l'as apprécié cette transition, Benoît, j'ai l'impression.
Magnifique.
Ce que tu vas moins apprécier, c'est quand je vais te demander tes scores sur, par exemple, Chambly qui reçoit Talence. Là, Chambly, il faut se réveiller là, après la deux défaites d'affilée contre R sur la Lys et Fos-sur-Mer. Victoire impérative.
Victoire impérative. Ils vont gagner Chambly contre Talence. Mais je pense qu'ils vont gagner 6-2.
Ok. Je vais dire 7-1 pour moi. Ouais. Ça dépendra surtout des joueuses de Talence, mais je pense qu'en simple dame, ils peuvent gagner les deux si leurs joueuses sont là. Je ne l'ai pas dit, ce sera le 7 janvier. Et comme on l'a dit dans la poule 2, a priori, et là, on vous jure qu'on ne vous ment pas, normalement, il y a le tournoi en Malaisie après, mais tous les joueurs, en tout cas, s'il y a des absences, ce ne sera pas à cause de tournoi.
De la dinde de Noël, peut-être. Mais...
Voilà, exactement. Moi, je dis 7-1, toi, tu dis 6-2. Fos-sur-Mer qui reçoit R sur la liste, donc deux équipes qui se partagent la tête, ça va être sympa aussi.
Ça va être très sympa et c'est très compliqué à pronostiquer. Honnêtement, j'ai du mal. Je vais quand même dire 6-2 pour Fos.
Ouais, j'allais dire la même chose. Je pense que Fos va faire la diff. Allez, pour te montrer ma bonne foi, je vais commencer pour le dernier pronostic. Rostrenin qui reçoit Aix-en-Provence et je vais dire que...
C'est dur. C'est une belle rencontre aussi. Hein.
Ouais, je vais dire qu'Aix-en-Provence va aller gagner 5-3.
Je sais pas. En vrai, j'hésite parce que je me dis que Rostrenen, c'est à la maison, donc ils vont quand même jouer au maximum le coup. Et je vois des joueurs de simple meilleurs, je vais dire 4-4.
Ok. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que le niveau moyen est très bon dans cette poule. Du coup, à chaque journée, on a des rencontres sympas. Là, franchement, ça va être cool de commencer l'année avec ces belles rencontres. Donc voilà, les pronostics sont lancés. Désormais, on attend les vôtres. Vous avez jusqu'au 7 janvier pour nous les envoyer avant les rencontres, si possible. Donc, vous avez un peu de temps et d'ici là, il peut se passer des choses. Mais on changera pas les nôtres, c'est comme ça. Même si, Benoît, là, je me tourne vers toi. On n'est pas trop ridicule, à défaut d'être leader dans ce classement de pronostics. Toi et moi, on se maintient à distance respectable, on va dire.
Oui, on est à l'affût d'une erreur. Enfin, voilà. Il va en falloir plusieurs hein, parce qu'une, ça suffira pas. Mais on est dans le top 10. Mais on a deux monstres, Firmin et Max, qui nous ont... Firmin qui est en tête depuis déjà 2 journées et Max qui nous a fait une journée où il a tout bien pronostiqué. Et il va falloir qu'il chute si on veut remonter.
C'est ça. Comme on dit au foot, on n'a plus notre destin entre les mains déjà.
C'est ça.
Mais merci à tous de participer. C'est trop cool de vous voir toujours plus nombreux à chaque journée. Il y a toujours quelques personnes qui se rajoutent. Ça fait plaisir de pronostiquer ça avec vous. Donc voilà, on continue donc avec la prochaine journée le 7 janvier. Merci Benoît d'avoir fait cet épisode avec moi. Je pense qu'on a terminé, plus rien à dire là.
Oui, merci à toi Ewan et merci à vous pour votre écoute.
Cette semaine, on a échangé, donc ça veut dire que le débrief de la poule 2 est déjà disponible depuis jeudi dernier. Vous pouvez aller checker ça. Je précise que si on fait ce top 12 le lundi, c'est que, donc un peu en retard, c'est qu'il y avait le World Tour Finals la semaine dernière et qu'il n'y a rien d'autre de tournoi majeur cette semaine. Dernier épisode de l'année, ce sera lundi prochain, le 26. Soyez au rendez-vous puisque ce sera le bilan de l'année. Donc si vous écoutez notre podcast depuis un petit moment, vous pouvez savoir à quoi ça va ressembler. Sinon, vous pouvez aller écouter celui de l'année dernière si ça vous chante, mais je vous le dis rapidement. Avec Benoît, on fait la liste de ce qui nous a marqué sur la planète Bad sur l'année civile. Et cette année, petite nouveauté, on va essayer de deviner ce qui va se passer l'année prochaine. Et vous qui cotez le top 12, vous connaissez nos capacités en pronostic. Donc je pense que ça va valoir le coup juste pour venir se moquer de nous l'année d'après. En tout cas, on a très hâte, c'est souvent un épisode assez conséquent et sympa à tourner, cet épisode de bilan de l'année. Donc j'ai personnellement très hâte de le faire et de vous le faire découvrir. Merci à tous de nous écouter. En ce moment, comme je l'ai dit déjà, on reçoit de plus en plus de commentaires, ça nous fait trop plaisir, et comme vous pouvez le constater, on essaye d'y répondre au maximum. Donc continuez, balancez-nous toutes vos débats, vos idées, vos avis. Merci de nous écouter, à la prochaine, à lundi.
盛放我们激情的节奏，把那束缚抛开的时候，共同感受这片天空带给我们的自由。挥动你我坚强的双手，努力奔向成功的尽头。我们的梦握在手中，绝不等候。是否在经历这平凡的事？